La paix, c'est un grand mot. J'ai fait partie de ce mouvement des années 68 où, la fleur à la bouche, les jeunes chantaient la paix et l'amour, en fumant de la marijuana. Pendant que le Vietnam se détruisait, on le détruisait. C'est notre paix, c'est la paix de Dieu dont je voudrais vous parler ce matin. Je vais faire avec vous trois petites lectures. D'abord dans 2 Corinthiens, dans la Bible, 2 Corinthiens au chapitre 5. Alors, ce sont des notes, je crois que là je découvre pour moi, pour ma part, petit chemin nouveau que j'ai déjà expérimenté, mais je ne me suis pas assez arrêté sur ce chemin de la paix de Dieu. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Je crois qu'on a besoin, je ne sais pas pourquoi, de réfléchir à cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je pense que nous en aurons besoin dans les jours qui viendront, dans le monde. Alors, 2 Corinthiens, j'y reviens, chapitre 5, et au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, de la paix. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et puis, ce texte que vous connaissez de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, Matthieu, chapitre 10, verset 11. Parlons sur la paix de Dieu. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Besoin d'expliquer ces mots. Et puis, Philippiens, chapitre 4, vous connaissez bien ce texte, et au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Philippiens 4, 4. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Après le 11 novembre, on ne pouvait pas dire c'était terminé. Tout était réglé. Il y avait des centaines de millions de blessures physiques, morales, matérielles. Il a fallu des années. Et puis, on a tracé de nouveaux pays qui sont toujours en guerre. Il faut construire la paix. Voilà. Il a fallu construire la paix. Et j'aime bien cette parole de Jésus sur le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix, les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un artisan de paix, ce n'est pas quelqu'un de non-violent seulement. La fleur à la bouche. Un artisan de paix, ce n'est pas quelqu'un seulement de pacifique, de doux. C'est déjà beaucoup. Il y a tellement de gens violents. Un artisan de paix, c'est quelqu'un qui travaille, un artisan. Il travaille à la paix. Il aide la réconciliation. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'Épître aux Corinthiens, Dieu nous a réconciliés avec lui et il nous a donné le ministère, le service de la réconciliation. Nous devons, nous aussi, nous réconcilier. Réconcilier les gens. C'est probablement un des plus grands ministères de l'Église et de chaque chrétien. Parce que ce fut l'une des œuvres les plus grandes de Dieu, la réconciliation. Et de donner aux gens autour de nous de la paix. Créer des liens de paix. Alors, il y a deux sortes de paix, la paix entre nous et puis la paix de Dieu en nous. La paix autour de nous et la paix en nous. Et pour faire la paix autour de nous, il faudrait avoir déjà la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Vous connaissez la parole de l'Évangile quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Il donne comme si c'était quelque chose de concret, de matériel. « Je vous donne ma paix. » Et puis la personne qui a cette paix, si elle passe quelque part dans une maison, cette paix, elle peut se communiquer aux autres comme un don du Saint-Esprit. J'y réfléchis. La paix se reçoit et elle peut se transmettre. Jésus dit dans l'Évangile de Luc aussi, « Votre paix ira sur les enfants de paix, les enfants bien disposés. Votre paix ira sur la maison, elle ira sur l'Église. » J'en prends conscience. Je peux, par la grâce de Dieu, vous communiquer la paix de Dieu. Et si cette paix, elle n'arrive pas sur quelqu'un, comme la colombe de Noé, qui n'a pas trouvé de quoi poser ses pattes et qui est revenue, si cette paix, elle n'arrive pas sur quelqu'un, la paix, elle va revenir sur l'apôtre ou le pasteur ou quelqu'un. Si la paix ne trouve pas quelqu'un, elle va revenir parce qu'il faut qu'elle soit reçue. On a l'impression que ça se communique comme un don du Saint-Esprit, je le répète. Paul dit souvent que la paix soit avec vous. Ce n'est pas une formule, une poésie. Il y a communication, il y a un don, il y a un transfert, il y a une grâce, il y a une bénédiction. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas de la poésie, c'est spirituel. La paix de Dieu, c'est une des choses les plus mystérieuses que je vais comparer tout de suite au baptême dans le Saint-Esprit, sinon plus. César Auguste, l'empereur de Rome, on disait de lui qu'il avait apporté la paix dans le monde, oula, par des victoires. Ouais, c'est la paix des cimetières. Il avait apporté la paix dans le monde entier par des victoires, en rasant les gens et leurs villages. Des victoires sur les autres. C'est vrai que la paix vient d'une victoire. Pas une victoire sur les autres, une victoire sur soi-même. Et pour qu'il y ait la paix dans une famille, dans un couple, et pour qu'il y ait la paix dans une église, il faut sacrifier son orgueil. Il faut sacrifier ses colères, sa jalousie. Il faut des victoires. Oui, après tout, l'empereur n'avait pas tout à fait tort. Il faut tuer ce qui en nous gêne la paix. Jésus sur la croix n'a pas tué ses ennemis, heureusement pour nous. Mais sur la croix, l'apôtre Paul dit, dans l'épître aux Philippiens, il a détruit l'hostilité, l'inimitié, pour établir la paix. Il a détruit ce qui bloque le mal, qui bloque votre couple, votre relation famille-enfant, le mal qui bloque dans une église. Il a détruit l'hostilité. Le péché, c'est quelque chose qui est une masse de plomb qui empêche l'église d'avancer. Même si on chante très fort, etc. Si l'église a du péché dans son cœur, du péché entre nous, s'il n'y a pas des relations fraternelles, ça bloque. Dans l'église, il faut faire mourir l'hostilité par le dialogue, par le pardon, par la douceur, par l'humilité, en ne répondant pas. Faire mourir l'hostilité. Vous avez peut-être vu ce film que j'ai apprécié, Joyeux Noël. Vous l'avez vu? Pendant la guerre de 1914, dans les tranchées, c'était la boucherie innommable. On ne peut pas décrire. Et le jour de Noël, la nuit de Noël, ils se sont retrouvés, Allemands et Français, sur le terrain de bataille. Et ils ont chanté ensemble, en allemand, en français, des cantiques de Noël. Ils ont vite été repris, mais ils ont été jusqu'au bout, avant de reprendre leur place dans les tranchées, avec le fusil tourné vers les autres. Faire mourir l'hostilité. On disait, Abraham Lincoln, qui est un président des États-Unis remarquable, on le critiquait un peu. Il était mou, un peu trop courtois, un peu trop gentil, avec ses ennemis. Il répondait, « Je supprime mes ennemis quand j'en fais mes amis. Quand ils deviennent mes amis, ce ne sont plus mes ennemis. » C'est gentil, Monsieur Lincoln. Que Dieu bénisse les présidents des États-Unis. Oui. Donc, ce n'est pas une paix de victoire sur les autres, c'est une paix de victoire sur soi-même. Procurer la paix. Surveiller des paroles, des comportements qui pourraient enlever la paix dans les relations familiales, d'église, professionnelles. Il faut être maître de ces paroles. Vous connaissez l'histoire de Joseph, de l'Ancien Testament, fils de Jacob. Ses frères étaient jaloux. Il y a un vitrail là-bas. On voit Joseph qui va être jeté dans le puits. Ses frères étaient jaloux et la Bible dit ses frères ne pouvaient pas lui parler avec gentillesse, sans hostilité. Ils ne pouvaient pas. C'était plus fort qu'eux. Quand il disait une parole, c'était toujours une parole qui piquait, ou un silence, ou il tournait le dos. C'était une hostilité. Ça conduit là où vous savez. Destruction de la famille, mais Dieu a tout récupéré. Nous tiendrons l'Église agréable à Dieu en établissant des relations paisibles. Pas en disant « j'ai la paix ». Parfois on dit ça pour avoir raison, en disant « j'ai fait ceci, mais j'ai raison parce que j'ai la paix ». Comme on est subtil. Pas en disant « j'ai la paix », mais en disant « je veux la paix ». Je veux faire la paix. Je veux donner de la bienveillance, ne pas rivaliser, ne pas jalouser, ne pas garder rancune. La paix, c'est ce qui tient l'Église unie. C'est ce qui réunit l'Église. Le Saint-Esprit, il assure l'unité par le lien de la paix. C'est écrit dans l'Épître aux Philippiens, aux Éphésiens. Supportez-vous les uns les autres en vous efforçant. Ce n'est pas toujours facile. Faire des efforts. Parfois, on n'a pas envie de répondre, on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de tendre la main, on n'a rien envie. Efforcez-vous de conserver l'unité par la paix. Frères et sœurs, si je ne suis pas dans l'Église, c'est comme un papa qui ne serait jamais chez lui et qui ne verrait pas ses enfants malades, en échec scolaire, frappés par les autres. Si je ne suis pas dans l'Église, je ne vais pas pouvoir apporter du réconfort, de la paix. Je ne serai pas artisan de paix. Je ne construis pas l'Église si je ne suis pas dans l'Église. Le Saint-Esprit, à travers moi, ne peut rien faire parce que je ne suis pas dans l'Église. Je ne suis rien, dira l'apôtre Paul, parce que l'Église, elle reçoit de Dieu à travers moi, à travers vous. Dieu nous utilise pour son Église, si on est là. La paix se transmet. Mais attention! Il y a des paix trompeuses. Il y a des paix trompeuses. Déjà dans le prophète Jérémie, des gens disaient « c'est la paix, c'est la paix ». Puis il n'y avait pas de paix. C'était la guerre. Et je pense à une paix trompeuse. C'est la paix du mauvais riche qui passe devant le pauvre Lazare tous les jours et qui saute au-dessus de lui parce qu'il est couché à sa porte. Et il pue, il n'est pas beau, puis il y a des chiens autour de lui. Alors le mauvais riche, enfin le riche, tous les jours c'est la fête. Et cette fête de tous les jours, avec la finance, avec le plaisir, avec les amis, ça donne un sentiment de triomphe, un sentiment de paix. Nous, on réussit. Et finalement, on ne voit pas Lazare. Vous savez ce que ça veut dire, Lazare? Dieu est mon secours. Cette paix-là, nous pouvons l'avoir. On est bien, on a réussi, on est bien dans sa famille, dans sa maison, dans ses vacances, on est bien. Et puis finalement, cette paix, elle ne nous permet pas parfois de voir autour de nous. Et finalement, c'est une paix trompeuse, désagréable, qui est aveugle. Rappelez-vous comment Jésus disait, « Je ne vous donne pas comme le monde donne la paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Parce que la paix du monde, c'est souvent une paix qui endort. C'est une paix qui oublie les souffrances de l'Église et du reste du monde. Ça va ? Je continue encore un peu ? Allô ? Je pense que nous pouvons être dans la paix de Dieu tout en étant affligés devant Lazare. Ce n'est pas la paix du monde qui a besoin de scintillants, d'argent, de beaucoup de voyages, de beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ce n'est pas cette paix-là. C'est la paix de Dieu qui dit « Dieu est là, Dieu m'aime, Dieu ne m'oublie pas ». Ça permet d'être dans ce bonheur de Dieu et de penser au malheur des autres. Quand un bonheur nous empêche de voir le malheur des autres, ce n'est pas un bonheur de Dieu, ça. Alors, voyez-vous, il y a la paix dont il faut discuter. Moi, ça m'a parlé, j'ai fait des expériences dans des moments difficiles, puis je n'ai pas assez médité. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que je dois réfléchir sur la paix de Dieu. Je ne vais pas aller loin, puisqu'elle dépasse toute intelligence. Personne au monde ne pourra comprendre ce qui se passe avec la paix de Dieu. Mais on va faire un petit bout de chemin. L'apôtre Paul dit dans les Éphésiens, il faut faire la paix, Dieu a fait la paix avec ceux qui sont loin et avec ceux qui sont près. Les païens du bout du monde et les juifs tout près de lui. Et nous devons faire la paix avec ceux qui sont loin et ceux qui sont près. Et ce sont ceux qui sont près qui sont le plus difficile. Regardez dans un couple, ça se déchire, ça se tape, ça se bat, parce qu'ils sont prêts. Mais on est prêt à pardonner à celui qu'on a vu une fois dans sa vie, évidemment. Et Paul, il dit, nous avons les uns et les autres, en parlant toujours de ceux qui sont loin, ceux qui sont près, nous avons les uns et les autres un même accès auprès du Père. Je me disais cette nuit, mais comment se fait-il qu'en marchant vers Dieu, eh bien, on ne puisse pas s'entendre, puisqu'on a un même accès auprès de Dieu. On marche vers le même Dieu et on ne peut pas s'entendre. On ne se parle pas en voyage. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, c'est vrai. Mais la fraternité de l'Église doit être en paix. Pas une fraternité de chant seulement, hein. C'est trompeur aussi. Pas une fraternité d'accolade, mon frère. Il faut que ce soit un seul cœur, une seule âme. J'aime beaucoup l'Église de Jérusalem du début. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Actes des Apôtres, chapitre 4. Mais ça, c'était le début et c'était le Saint-Esprit. Mais vous savez, la paix, ce n'est pas possible s'il n'y a pas du travail. Recoudre, replanter ce qu'on a déraciné. Et puis, je pense qu'il faut aussi se rappeler de la parole de Paul. Il a renversé le mur de séparation parce qu'il est notre paix pour en faire qu'un avec les Juifs et les païens. Il a renversé le mur de séparation. Il y a des murs qu'il faut renverser. Je pense qu'on doit être capable de dire « Je ne suis pas en guerre contre les catholiques, je ne suis pas en guerre contre les musulmans, je ne suis pas en guerre contre mes voisins, je ne suis pas en guerre. » Nous devons être en paix avec tous les hommes, dira l'apôtre Paul aux Romains. Tous les hommes. Bon. Ça va, vous me suivez toujours ? Je vais simplement aller à la fin parce que je vais vous reprendre plus tard. Je vais vous faire attendre un peu. Je reviens sur la nature de la paix de Dieu. Cette paix de Dieu, ce n'est pas de dire j'écoute une douce musique, ça me donne un peu de un petit peu de bonheur, là, je plane un peu. Non. La paix de Dieu, c'est la nature de Dieu. La paix de Dieu. Je vous donne ma paix. La paix de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Je vais vous dire les mots qui me sont venus dans mes méditations depuis quelques heures et quelques jours. La paix de Dieu, c'est comme une transfiguration déjà de notre personne. Comme Étienne, quand il parlait, il était mal vu, maltraité, et son visage devenait comme celui d'un ange. Ça, c'est la paix de Dieu. C'est un sentiment qui s'impose à nous. Dieu te voit. Dieu est avec toi. Dieu sait ce que tu vis. Dieu est plus grand que toi. Ne crains pas. C'est un sentiment qui s'impose à nous. La paix de Dieu, c'est forcément paisible. La paix de Dieu, c'est forcément paisible. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça n'a pas de sens. C'est paisible. Mais la paix de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est invulnérable. Paul a parfois désespéré de conserver la vie. Il se voyait mourir. La paix de Dieu, c'est un peu comme les jeunes gens dans la fournaise ardente. Il y a aussi un vitrail là. Ils sont dans la fournaise ardente et puis ils sont là, dans un monde de mort. Et puis là, ils vivent quelque chose. On a du mal à comprendre tout ça. La paix de Dieu, nous l'avons lu dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, elle garde nos pensées. Et je pense que la paix de Dieu n'empêche pas de passer dans la fournaise du deuil, de la maladie. Mais elle garde nos pensées attachées à Jésus. Ça, c'est le salut de chaque jour. Chaque jour, je suis attaché à Jésus, même quand la terre bouge sous mes pas. Elle nous tient par-dessus les flots. La paix de Dieu nous garde, et c'est un mot militaire. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est un mot militaire. C'est comme un soldat qui serait posté à la porte de mon cœur et qui fait attention à tout ce qui rentre, tout ce qui tourne autour de moi. La paix de Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, la paix de Dieu règne. Et c'est un mot sportif. Elle arbitre. Elle dit stop de temps en temps. Stop. Hors jeu. Laissez mon enfant tranquille. La paix de Dieu, elle arbitre. La paix de Dieu, ce sont les arts de l'esprit. La paix de Dieu, c'est une présence de Dieu en nous. La paix de Dieu, c'est le commencement de la transformation. La paix de Dieu, elle ne change pas mon corps, elle ne change pas les circonstances, elle ne change pas les événements, elle me fait vivre sur les hauteurs, tout en souffrant. C'est une expérience majeure, primordiale, dans la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on n'entend pas dans les pages des épîtres les apôtres pleurnichés, les apôtres bougonnés, les apôtres qui disent « Ouais, c'est pas facile. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il est en prison avec les fers aux pieds. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Ça, c'est la paix de Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur, qui s'accomplit dans nos vies. Tu ne veux pas que nous soyons sous un joug de tristesse et de paralysie, mais tu veux que ton Église soit devenue semblable à toi. Qu'elle triomphe, qu'elle soit plus que vainqueur, et qu'elle ait au fond d'elle-même la présence même de Jésus, le Prince de la paix. Seigneur, parfois je gémis devant toi. Donne-nous de revenir à l'essentiel, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous laisser tromper par le menteur. Ce qui est important pour nous, c'est l'obéissance, la miséricorde, la droiture et la paix de Dieu. Amen.